tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient une drogue. Cette semaine, des rediffusions pour prendre des nouvelles du Portugal, aujourd'hui un documentaire d'Elsa Cornevin réalisé par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un jour de printemps 1974 et des brassées d'œillets, un 25 avril où tout redevenait possible après 48 ans sous le boisseau, 48 ans de peur et de contraintes. Une journée de 74 où tout était à réinventer, un printemps où les exilés sont rentrés et où l'on pouvait de nouveau chanter dans la rue et marcher tous ensemble au grand jour. Le Portugal a une longue histoire, une histoire dont les échos ont résonné avec force en 2013. Alors il faut peut-être tendre le micro à ceux qui se souviennent, ceux qui se sont battus, qui l'ont payé cher et qui sont partis pour mieux revenir et tout réinventer une fois Salazar enfin tombé de son socle. Alors pour commencer, le personnage. Un jeune musicien, catholique, un activiste devenu communiste, des militants clandestins, des étudiants qui tiennent bon, un chanteur légendaire et des compagnons parisiens. Ensuite, le décor. Des cigarettes qu'on rallume, les souvenirs qui reviennent, des prisons où l'on torture, des frontières à franchir, des studios de mixage, des gares comme un décor sonore, une guitare, des cortèges et des rassemblements. Aujourd'hui, troisième épisode, on remonte le temps.
José Mario Branco nous reçoit chez lui aujourd'hui. À 72 ans, il reste un homme engagé. Auteur, compositeur et interprète majeur, c'est un artiste qui a toujours considéré la musique et les chansons comme une arme, a cantiga uma arma. Engagé depuis ses plus jeunes années contre la dictature de Salazar, José Mario Branco connaît, à 20 ans, la torture et la prison. En 1963, il s'exile en France et s'impose comme un des grands noms de la chanson portugaise, engagée et militante. Ses disques circulent alors clandestinement au Portugal. Le 25 avril 1974, le coup d'État du mouvement des forces armées met fin à 48 ans de dictature. Le peuple envahit les rues de Lisbonne, les prisonniers politiques sont libérés et nombreux sont les exilés qui reviennent au pays. Tout semble possible, tout est à imaginer, un nouveau Portugal est à construire. C'est dans ce climat de liesse que José Mario Branco, de retour au Portugal, fédère les talents de nombreux artistes pour aller porter les idéaux de la Révolution aux quatre coins du pays. Aujourd'hui, José Mario Branco nous fait partager les grands moments de sa vie. Son parcours singulier se confond avec l'histoire récente du Portugal et ouvre la réflexion sur l'engagement, hier et aujourd'hui. José Mario Branco, rêve d'avril.
À Porto, qui est la ville où je suis né et j'ai passé toute ma jeunesse, j'étais, pour diverses raisons, un activiste de la jeunesse catholique, très tôt, vers 12-13 ans d'âge. Et petit à petit, avec les événements qu'il y a eu, je me suis rendu compte qu'il y avait une contradiction profonde entre mes croyances religieuses et mon aversion à la dictature et à tout ce que cette dictature signifiait dans notre vie quotidienne. Il faut situer ça dans une époque où beaucoup de choses importantes se sont passées au Portugal et dans le monde surtout. La révolution cubaine, par exemple, le concile Vatican II, enfin plusieurs événements qui ont provoqué une prise de conscience de la part de la jeunesse étudiante. En 58, j'avais 16 ans. J'étais sur le point d'entrer à l'université et j'ai vite compris que la seule façon organisée et efficace, je le croyais à l'époque, de combattre la dictature était le Parti communiste. Donc rapidement, j'ai fait ce saut d'une église à l'autre, de l'église catholique au PCP, au Parti communiste portugais.
Qui était complètement clandestin à l'époque.
Absolument clandestin, et le simple fait d'être suspecté d'y appartenir était un motif pour être emprisonné et pour être jugé en tribunal. L'autre fait qui a été décisif a été le déclenchement de la guerre coloniale en février 61 sur les trois fronts qui presque en même temps ont déclenché les hostilités contre le colonialisme et pour l'indépendance des colonies.
Mozambique, Angola,
Guinée-Bissau, Guinée-Cap-Vert. Ils étaient ensemble dans la lutte. Donc, la jeunesse universitaire, très vite, vers 62-63, a commencé à être réquisitionnée pour suppléer aux déficiences du contingent. Mais l'important ici, en plus de cette perspective noire qui était devant nous, était le fait que après 16 ans d'âge, tout jeune, universitaire ou non, était assujetti à des règles militaires. Tous ses mouvements, toute son activité étaient déjà sous contrôle de l'armée. Moi, j'étais à Berlin, au congrès des jeunesses musicales, moi, j'étais à Paris, en voyage touristique, etc. J'ai eu besoin d'un document militaire, ce qu'on appelait l'autorisation militaire, pour franchir la frontière. Et entre jeunes intellectuels, moi j'avais un groupe informel d'amis à Porto, nous étions poètes, nous étions peintres, nous étions enfin, en formation, je veux dire. Bon, c'était un groupe qu'on ne peut pas considérer comme un groupe standard de l'époque. Nous étions, disons, culturellement et intellectuellement privilégiés au milieu de toute cette grisaille qui était l'ambiance sociale. C'est aussi à ce moment qu'on commence à connaître, dans le milieu étudiant et pas seulement, José Afonso. Les premiers disques de José Afonso. On peut dire que il n'y a personne dans toute cette mouvance antifasciste qu'il y avait dans le pays qui n'ait pas eu un amour immédiat pour José Afonso, pour sa voix, pour ses chansons. C'était comme un phare qui montrait une évolution possible pour la chanson au Portugal. Et notre débat central à l'époque était provoqué par la guerre coloniale, par cette épée de Damoclès qui était suspendue sur nos têtes. Et la discussion était très vive parce que la position du Parti communiste portugais était que les militants du parti devaient aller à la guerre et faire leur travail politique au front de guerre. Beaucoup d'entre nous, et moi surtout avec ma formation chrétienne d'origine, ça nous répugnait vivement. Et nous avons commencé à connaître la discussion qui, sur ce même sujet, a existé en France à l'époque, à cause de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que nous étions des lecteurs avides de tout ce qui était publié en France, les articles de Jean-Jacques Servan-Schreiber à l'Express, de Jean Daniel à l'Observateur. C'était des journaux interdits, mais il y avait toujours des libraires qui avaient au fond de la librairie une arrière-étagère où l'on pouvait trouver des exemplaires de ces journaux ou de ces bouquins. Et puis, c'était la discussion centrale pour nous. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas recevoir la carte postale de l'armée? Qu'est-ce que tu vas faire?
Diz à minha mãe que eu não vou pra guerra. Diz ao mar à minha mãe que matar não me apraz. No fundo, quem vai à guerra é aquele que a não faz. Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada e para a mãe negra e triste que vive acorrentada.
Dans les lycées, il n'y avait rien. Il y avait une chose obligatoire qui s'appelait la jeunesse portugaise, Mocidade Portuguesa, qui était une jeunesse proto-fasciste avec uniforme, entraînement militaire ou militarisant, des chants patriotiques, des défilés, des fanions et des bannières, enfin, comme les jeunesses fascistes italiennes, etc. 62, c'est l'année de la première grande crise étudiante au Portugal. Il y en avait eu d'autres avant. Il y a 3 universités dans le pays à l'époque seulement. 62, donc j'ai...
20 ans.
Pas encore, parce que je compléterai 20 ans en mai, après. Déjà membre du Parti communiste, très jeune membre du Parti communiste. Et j'ai été lié au premier petit groupe portugais qui a tenté d'organiser des associations d'étudiants dans les lycées, incitées par le Parti communiste. L'objectif de ces groupes était de faire des associations d'étudiants dans les lycées. C'est aussi simple que ça. C'était pas contre la guerre coloniale, c'était pas études marxistes, c'était rien du tout de ça. Il y a une grande manif ici à Lisbonne. Le 24 mars, c'est la journée nationale de l'étudiant. On a défilé jusqu'au comprendre, invité par le recteur de l'époque, qui serait le futur Premier ministre, Marcelo Caetano. Il a tenté de désamorcer cette situation explosive en disant « Vous êtes mes invités pour dîner au restaurant Castagnere, qui était un grand restaurant qui existait au Campo Grande. » Alors nous sommes dit, nous allons au dîner du recteur, mais nous allons en défilé. Nous avons descendu ce qui s'appelle aujourd'hui l'avenue des forces armées, entre Campos et le jardin du Campo Grande. Au milieu du jardin, charge de police. Donc ça a été un guet-apens. Il y a eu des centaines de détentions, y compris un fils d'un ministre de l'époque. C'était un scandale parce que le ministre était fasciste et son fils venait d'être emprisonné à la manif. Et en avril 62, pendant les vacances de Pâques que je passais chez ma mère à Porto, je suis pris par la police politique. À 7h du matin, ils sont entrés chez ma mère et ils m'ont arrêté. Accusation, membre du Parti communiste portugais. Il ne disait jamais comme ça, il disait membre du dit Parti communiste portugais, entre guillemets. Et j'étais emprisonné avec toute l'organisation du parti dans la région de Coimbra, pour le fait que le fonctionnaire clandestin du parti, qui contrôlait toute cette région, avait été arrêté quelques semaines auparavant. On ne le savait pas, parce qu'on se rencontrait clandestinement 5 minutes quelque part, et puis très vite, on se séparait. Et ce fonctionnaire, qui s'appelait Viana, avait donné à la PIDE plus de 300 noms de militants du parti. Le lendemain matin, nous sommes transportés à Lisbonne. On nous met dans une grande salle de la prison de Aljoub, à côté de la vieille cathédrale. Et je suis mis dans cette salle et je vois 21 personnes, moi compris. C'était la structure centrale de l'organisation du Parti communiste à Coimbra. Et nous nous sommes dit, nous sommes foutus. J'ai complété 20 ans dans une cellule avec 80 cm de large et 3,5 m de fond, où nous étions deux. C'était ce qu'on appelait les tiroirs de l'Aljoub, de la prison. C'était comme des tiroirs. À 3-4 heures du matin, ils venaient, ils ouvraient les portes, les serrures, etc. Venez ! Et on était emportés dans une Citroën de Lapide pour aller au siège de la police pour les interrogatoires. Rue Antonio Maria Cardoso. J'ai eu 3 ou 4 séances de plusieurs jours de suite, jour et nuit. Parce qu'il y avait deux tortures qui étaient plus communes à la police. La torture du sommeil, c'est-à-dire vous êtes empêché de dormir les yeux ouverts, empêché de dormir debout ou assis ou contre un mur, empêché de dormir, ou la torture de ce qu'on appelait la statue, c'est-à-dire obligé à être debout pendant des dizaines d'heures de suite, ce qui a des conséquences physiques absolument insupportables. Donc, dans ce cas, comme dans d'autres, dans l'histoire de la résistance portugaise, la police a opté pour ne pas faire juger au tribunal une partie considérable de ces personnes, en commençant par les plus jeunes. Moi, j'y suis resté 6 mois et demi, libéré sans jugement. À partir de là, octobre, j'étais chez ma mère à Porto. L'année scolaire 62-63, je me suis réinscrit à l'université en histoire et philosophie. J'étais, comme on disait à l'époque, j'étais brûlé. C'est-à-dire, la police me connaissait, savait tout sur moi, j'avais été en prison, etc. On disait, tu es brûlé. Donc, c'était une vigilance permanente. En mai 63, j'allais compléter 21 ans. J'avais interrompu mon cours, etc. J'avais été en prison. J'étais sûr que j'allais être appelé à l'armée. Et en plus, là où ils mettaient ce qu'on appelait les politiques, c'est-à-dire au régiment disciplinaire de Penamacor, là où étaient les assassins, les voleurs, les condamnés, etc. Donc je me suis dit, je vais me tailler d'ici. J'ai posé la question au parti. Le parti a envoyé quelqu'un me dire que si tu vas pas à la guerre, si tu veux t'enfuir en France, tu peux le faire, mais tu n'auras pas le moindre appui du parti pour ça.
Donc vous êtes brûlé d'un côté et en même temps vous êtes menacé d'être lâché par le Parti communiste à l'époque.
Donc je décide de partir quand même, début juin 63. Pourquoi ? Parce que j'avais un vieux passeport. J'ai passé légalement la frontière nord vers la Galice, vers Vigo. J'ai pris un avion à Vigo vers Madrid. J'étais à un fil d'être arrêté par la Seguridad, la police politique espagnole. Parce que lui aussi, savant évidemment tout ça, m'a demandé le document militaire que je n'avais pas. J'ai dit, vous avez raison, je vais justement à Madrid chez un ami où je l'ai oublié sur une table. Il a souri, il m'a laissé suivre. J'avais un petit sac avec rien. Un livre de poèmes et quelques pièces de... Et à Madrid, j'ai attendu 2 ou 3 heures et j'ai pris le Sud Express de Madrid vers Paris. Le lendemain, mon passeport n'était plus valable. Mais c'était pas... Je connais des tas d'histoires de gens qui se sont enfuis du Portugal. C'était pas aussi idyllique que ça. C'était des gens qui frappaient à ma porte à Paris quand ils arrivaient, comme cet Alvaro Morne, qui passait parfois des journées entières enterré dans la neige des Pyrénées pour échapper à la Guardia Civile espagnole et pour échapper aux gendarmes français. Mon histoire, malgré tout, un certain côté d'aventure, mais j'avais un passeport. J'avais un passeport. À Paris, donc à partir de juin 63, le premier temps de Paris, c'était survivre, me marier avec la mère de mes enfants, et j'ai adopté un principe absolument impossible à tenir, mais qui a été, disons, ma ligne de conduite pendant les 11 ans d'exil. Je vais me comporter ici en France comme si j'étais là pour toujours. Mais la première minute que je peux rentrer au Portugal, je rentre. C'était très difficile. Parce que j'étais tout le temps tiraillé par la volonté de rentrer. Je ne pouvais pas parce que j'irais direct en prison. Et la nécessité de vivre bien. Mon premier enfant va naître en 65. Donc on commence à être une famille. Et je suis intégré dans les groupes déjà en rupture avec le Parti communiste. Rupture au sens idéologique. Alors c'est en 65 qu'un cousin de ma femme, passant par Paris, oublie chez nous une guitare. Alors j'ai commencé à étudier comment ça se fait marcher, une guitare. Absolument d'oreille. C'était déjà l'influence de José Afonso. Ces chansons qu'on chantait ensemble. Je l'ai connu quelques années plus tard, à Paris. J'étais en train de chanter avec Fagnais à une association portugaise à Gennevilliers, dans le banlieue nord de Paris, et quelqu'un est venu en courant en disant « José Afonso chante en ce moment au Boulmich ». Alors on a arrêté tout de suite, on a couru au Boulmich pour connaître le maître. Alors lui était une personne absolument exceptionnelle. C'était tout de suite facile. Ah, tu fais des chansons aussi, oui. Ah, intéressant ça. Moi je rentre après-demain à Lisbonne. Tu veux pas que j'emmène une bande enregistrée avec tes chansons? Tu sais jamais. Et ça a été lui le porteur de la première maquette que j'ai envoyée au Portugal. Et c'est Giacometti qui a édité mon premier disque aux archives sonores portugaises. 6 chansons que j'avais fait avec ma musique sur des poèmes médiévaux portugais.
Vous faites quoi comme travail ?
Mon premier, c'était à une fabrique de métaux précieux, près de la République, près du square du Temple. Très bas salaire, mais bon, 9 heures par jour, 10 heures par jour. Mon déjeuner à midi, c'était une demi-baguette et un quart de berlingot de lait. Et mon travail était de balayer les officines pour ce qu'on appelait la récupération des déchets précieux. Remarquez que mon arrivée en France n'est pas du tout prototypique de l'émigrant portugais, parce que déjà je parlais le français presque aussi bien que je le parle ici avec vous. C'était notre deuxième langue au lycée. Je parlais le portugais, le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. J'avais 5 langues. Les Français n'étaient pas très habiles en langue à l'époque. Et aussitôt qu'ils ont compris ça, ils m'ont dit, vous allez passer au bureau d'exportation de l'entreprise. Dont le chef était un monsieur Bayeul, qui un jour, moi je lisais à l'heure du déjeuner, la première chose c'était d'acheter Le Monde. Pour voir s'il y avait un entrefilet, un truc quelconque sur le Portugal. C'était l'obsession. Et un jour, ce monsieur Bayeul me dit, mais, monsieur Branco, vous parlez comme Le Monde. Parce que c'était vraiment mon école. On n'avait pas d'amis français. On était mis dans un carcan complètement fermé d'exilés politiques portugais. Tous les week-ends, ma vie, c'était d'aller partout en Europe chanter pour des communautés portugaises immigrantes ou exilées. Les petites associations, les petits groupes politiques, les petites discussions, les petites choses. Tout ceci n'a été brisé absolument que en 68. C'était un changement total. Comme j'étais déjà assez connu des différentes communautés, il y a eu un groupe de théâtre, deux groupes d'ailleurs, le Théâtre des Amandiers de Nanterre et le Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, qui m'ont contacté à travers des Portugais, je ne sais pas qui, disant, nous allons chanter pour les occupations, dans les usines, dans les quartiers, dans les écoles, dans les gares, partout. Nous allons faire des sketchs de théâtre, dire des poèmes, raconter des histoires, pour les faire passer le temps, parce qu'ils passent jour et nuit aux occupations, etc. Des familles entières, parfois. Alors, José, tu veux venir avec nous? Et tu connais d'autres chanteurs? Alors moi, aussi bien que Serge Gooding, qui était à Paris depuis 67, et Louis Cilia, qui était le plus ancien. Il était déjà à Paris quand je suis arrivé. Alors, chanter partout, tu peux imaginer. J'ai fait des amis, chanteurs, acteurs, musiciens, un violoniste, un guitariste. Donc d'ici naît une coopérative artistique qui a pris pour nom Organon. Mais ça a été ce moment-là, la transition de ma double vie, jour au bureau, soir la musique, j'ai pu devenir un musicien à part entière. Et donc me consacrer entièrement à la chanson, à la musique.
Chers amis, je vous présente un de nos camarades portugais qui va vous chanter ce soir. Il s'appelle Serge Godino.
Cette chanson maintenant dit, apprends à nager, compagnon, car la marée va se lever, car la liberté est en train de passer par ici. Marée haute, marée haute, marée haute.
Alors 1971, à Paris, c'est l'année où vous faites les arrangements et la direction musicale de l'album Cantigas do Mário, de José Afonso, qui contient la chanson Grandola Vila Morena, qui est le signal de la révolution au Portugal.
Bon, ce disque a été enregistré quelques mois après mon premier album, Change les temps, change les volontés. C'est un sonnet de notre poète de la Renaissance, Luís de Camões. Et José Afonso m'a invité pour diriger ce travail. On a été au même studio où j'avais déjà enregistré, qui était à Hérouville, un petit village près de Pontoise. Il s'appelait à l'époque Strawberry Studio. voyez, mon premier disque m'a montré plusieurs choses. J'abordais une nouvelle phase de ma vie où il s'agissait de fixer une œuvre sur un support. J'avais un thème que j'ai appelé « Gare d'Austerlitz ». Je dis à Gilles Salé, ce technicien qui a été le même depuis pour une série de disques, ça c'est le train, c'est le train. Eh bien, allons à Austerlitz, enregistrer le train. Ah, et le disque commencerait comme ça? Ben oui, d'accord. Mais le Sud-Express, parce que les gens qui sortent et qui viennent retrouver les gens de famille, etc., tu entends des mots en portugais, en espagnol, le chef de la gare qui annonce « Entre en gare le train numéro 7 en provenance de Lisbonne, Madrid, Hendaye, Bordeaux. » C'est ça que j'appelle mise en scène sonore. Mais même avec les instruments musicaux, il y a cette notion de mise en scène sonore. Le disque de José Afonso, qui est encore aujourd'hui un disque de référence dans la discographie portugaise du XXe siècle, a bénéficié beaucoup de cette expérience. Ce disque, je pourrais être un homme riche aujourd'hui parce que l'éditeur de José Afonso était une entreprise à Porto, Orfeo, c'était la marque. Et lui, c'est Arnaldo Trindade, qui a édité une grande partie de l'œuvre de José Afonso. On enregistre, on commence avec José Afonso, etc. Et l'argent ne venait pas. Moi, j'étais terrifié. Je téléphone à Porto. Demain ou après-demain, je vais avoir la facture du studio. J'ai déjà des musiciens qui sont venus auxquels je n'ai pas pu payer parce que ils attendent que je les paye. Écoutez, si demain soir, il n'y a pas quelqu'un que vous envoyez ici avec l'argent dans la poche, cette bande sera mienne. J'aurais pu être riche aujourd'hui. Le fait est qu'il a envoyé quelqu'un, un employé à la comptabilité, M. Pereira, avec l'argent dans sa poche. Il est venu au studio, a écouté la bande. Il a été téléphoné à Porto. Il me dit, José, Arnaldo veut vous parler. Ah, ça va, oui, Pereira m'a dit que c'est très très beau le disque. Félicitations, etc. Vous avez l'argent, ça va aller, hein, tout est en ordre. Il était un peu comme ça, là, un vendeur de foire. Il y a une chose que je comprends pas, José. Pereira m'a dit que certaines chansons, vous avez mis plusieurs instruments, c'est assez écrit, c'est complexe, etc. Mais il y a une série de chansons, pratiquement c'est seulement la voix de José Afonso. Alors pourquoi vous me prenez le même cachet pour toutes les chansons? Et d'instinct, je lui ai répondu, mais vous vous trompez, Arnaldo. Le cachet que vous me payez, c'est pas pour payer les instruments que je mets. C'est pour payer les instruments que j'enlève. Quand je fais face à l'arrangement d'une chanson, vous savez ce qu'il y a dans ma tête? Quoi? Tous les sons possibles. Tous les instruments possibles. Toutes les sonorités possibles. Toutes les ambiances sonores possibles. Ce que je fais, c'est enlever. Pour arriver à l'essentiel. Ce qui a fait que le son, par exemple, de mon premier disque et de ce disque de José a révolutionné la façon de faire des disques de chansons au Portugal, c'est ça.
Et vous aviez conscience, quand vous étiez à Paris, de ce succès qu'avaient été vos
oui,
disques?
Oui, parce qu'il y avait des tas de journalistes qui faisaient le voyage à Paris pour m'interviewer. De bons journalistes portugais qui faisaient leur travail aussi, ils savaient de quoi de quoi il s'agissait. Il s'agissait de mettre à bas ce régime. Gringolo était une chanson que José Afonso avait composée en hommage à une collectivité de Gringolo, au sud. Mais elle n'avait pas la structure qu'elle a dans le disque. J'ai dit, Zec, nous appelions Zec à José Afonso. Faut faire de ça une chanson de l'intège. T'es d'accord? Ah oui, bonne idée, etc. On pourrait mettre ici cette image sonore que j'ai des pas des chanteurs. Un mouvement qui était, qu'ils font encore aujourd'hui, les bons groupes. Chut, pas, chut, pas, chut, pas. Glissement posé, glissement posé, sur une cadence lente. Alors l'intège, tout est lent. Parce que c'est la grande plaine. Et ce soir-là, cette nuit-là, vers 2-3 heures du matin, quand on était sûr qu'il y avait le silence, on a enregistré quelques minutes de pas, embrassés comme les Alentejans, exactement à la manière des travailleurs d'Alentejan. Sur cette base, José Afonso a chanté et nous avons fait le chœur avec lui.
Grândola, Vila Morena.
Mais le mixage de ses pas n'a pas été parfait. On dirait que c'est le double, la cadence est double. C'est devenu un peu martial. C'est une coïncidence. Parce que justement, ce sont des militaires qui ont décidé de prendre cette chanson comme symbole de leur mouvement. À 7 heures du matin du 25 avril 1974, j'étais séparé de ma femme, j'étais à un petit hôtel à Montparnasse. Le portier de nuit, qui était portugais, comme c'était courant chez les exilés, quand je descends pour aller prendre le train pour aller à Trappes, me dit, tu as entendu les nouvelles chez France Inter? Non, pourquoi? Pareil qu'il y a un coup militaire au Portugal. Voilà, c'est la première information que j'ai eue. Et j'étais très méfiant, parce que on parlait, on se disait qu'il y avait un danger de coup militaire de droite contre Caetano, de la part de ce qu'on appelait ici la brigade du rhumatisme, qui étaient les vieux généraux fidèles à Salazar. Le Monde, c'était 5 colonnes à la une ce jour-là, c'était énorme. C'est une dictature de 48 ans, attention. J'étais très méfiant et je me suis posé deux conditions pour mon éventuel retour au Portugal. Deux choses qui pour moi étaient fondamentales. Premièrement, guerre coloniale. Qu'est-ce qui va se passer avec la guerre? Et deuxièmement, police politique et prisonniers politiques. Très vite, le mouvement des forces armées a publié des communiqués parlant, non pas encore d'indépendance, mais de autodétermination des peuples des colonies, etc. Mais pendant quelques jours encore, il y a eu 2 ou 3 prisonniers politiques qui n'étaient pas libérés. Et je me suis dit, tant qu'ils ne sont pas tous en liberté, moi je ne rentre pas. Le lundi 29 avril, mon beau-frère me dit, ils sont tous sortis. Et je suis parti le 30, le lendemain, dans un avion, voyager aussi envers Cugnal et tout son staff du comité central du PCP, avec Louis Cilly et sa femme aussi. Et vers 3h de l'après-midi, on a atterri à Lisbonne. Des soldats ont poussé l'échelle auprès de l'avion et se sont postés comme ça. J'ai dit, bon, ça y est, on va tous nous arrêter. Mais non, c'était une espèce de garde d'honneur pour Arvo Lucugna. Et dehors, il y avait Zeca Fons, il y avait Adriano, il y avait Letria, il y avait José Duarte, il y avait des tas de gens de la musique. Et on a chanté Grandola. Et on s'est donné rendez-vous pour cette nuit-là, se retrouver tous, et d'autres encore si possible, pour discuter entre nous qu'est-ce qu'on va faire.
Quel souvenir vous gardez du 1er mai 1974
? J'étais à Lisbonne encore. C'est des images complètement dionysiaques. Cette image de l'avenue en Mirantreich, bourrée à craquer de gens, de toutes les conditions, de tous les âges, de tous les genres. Et c'était une fête merveilleuse, une foule à perdre de vue. On a calculé 1 million de personnes. Dans un pays, 10 millions, c'est fort. C'est la joie, la détermination, la notion qu'il y a un chemin qui commence. Voilà, c'est ça. Un nouveau début de tout. De l'amour, du travail, de la famille, de la poésie, de la musique. Tout est à recommencer. Voilà.
Porta que en camaradas!
Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria.
Et c'est là que commence l'aventure du GAC, du groupe d'action culturelle.
La nuit du 30 au 31, la nuit, on s'est réunis. On a adopté une espèce manifeste déjà bien orienté idéologiquement par mes soins. Très rapidement, dans les semaines qui suivirent, ce groupe s'est désarticulé en plusieurs tendances parce que tout au Portugal a été fait comme ça. Il y avait ceux de l'extrême gauche, il y avait ceux du PC, il y avait ceux à droite du PC. Donc, socialiste, enfin. Mais la première mouture de ce manifeste a été signée par tout le monde, depuis Manuel Alegre, le poète, jusqu'à nous qui étions, disons, l'extrême gauche de la chose. Donc, c'était la grande union des chanteurs et des poètes pour changer ce pays. Et c'est en septembre, je crois, 1974. Tout cet été-là, c'était ce groupe qui allait partout chanter, expérience merveilleuse. Par exemple, à Alvito, une fête à la place centrale, tu commences à chanter des chansons politiques, des chansons populaires. On parle aux gens, on leur dit qu'est-ce qui arrive à ce pays, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, les pauvres, les riches, la lutte des classes, tout ça. Et puis, un groupe de 3 ou 4 femmes qui arrivent au micro et disent « Nous allons raconter ce que c'était notre vie avant. » La demi-sardine sur le pain, à l'heure du déjeuner. L'eau rationnée pour les travailleuses qui étaient là. L'engagement à 6h du matin et celles qui n'étaient pas engagées parce que la police ne les aimait pas. Et tout ça, bim, 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 toute l'histoire. C'est-à-dire, C'était concret, cette histoire de donner la parole au peuple. C'était bien concret. Le gars qui a fait en 3 ans 1200 prestations gratuites. C'était fou, c'était dingue. Parce qu'en même temps, j'ai aidé à fonder une organisation politique qui s'appelait UDP, Union démocratique populaire. Donc c'était une force déjà considérable, qui avait une grande implantation populaire dans les quartiers pauvres, dans les petits villages, là où il y avait des usines normalement. Après, on a commencé à éditer des disques, toujours selon la démarche révolutionnaire, des disques bien faits, mais vendus très bon marché, directement à la population, à bas les maisons d'édition, à bas le grand commerce. Il y a une chose que j'ai compris avec le temps et avec toutes ces expériences. L'engagement, c'est pas une chose simple. Moi, j'ai jamais accepté les attitudes des gens qui nous faisaient venir et qui se foutaient de la qualité du son, de la qualité des musiques qui étaient chantées. Et, comme tu peux imaginer, ça a provoqué pas mal de situations délicates. Un jour, j'ai refusé de chanter avec un type qui est toujours un grand ami à moi. C'est pas ça qui était en question. Parce que courant d'un endroit à l'autre, il a jeté sa guitare dans le coffre de ma voiture, comme ça, sans étui. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu viens de faire? C'est comme ça que tu traites ta guitare? Tu comprends pas que c'est une partie de ton corps qui te permet de chanter des chansons et qui... Ah là, c'est pas important ça. Ah non, pour moi c'est important, je vais pas chanter avec toi. Parce que je suis musicien. Voilà. Et ça a toujours créé des contradictions très difficiles entre moi et les cadres politiques. Toutes ces questions, la plupart des cadres politiques s'en foutent carrément. Ils veulent le spectacle, ils veulent le troupeau qui vienne entendre les mots d'ordre. Alors pour moi, ça, c'est pas révolutionnaire, c'est réactionnaire.
De quem é o Carvalhal? É nosso! Assim, te quero cantar, mar antigo a que regresso. Neste cais está arrimado o barco sonho em que voltei. Neste cais eu encontrei a margem do outro lado. Grândola Vila Morena. Diz lá, valeu a pena a travessia? Valeu, pois.
Moi, je suis revolucionaire par idée, par conviction, par valeur. Et je te jure, aujourd'hui, j'ai 71 ans, presque 72. C'est les mêmes valeurs quand j'avais 12 ans d'âge. Exactement les mêmes. Que j'ai compris, par intuition, j'ai compris à partir du christianisme. J'ai les mêmes problèmes à cause des mêmes valeurs. Simplement, j'ai pas une guerre coloniale à refuser. Maintenant, c'est... la merde des télévisions, c'est les lavages de cerveau. Ce qui se passe est très différent de ce qui s'est passé avant. Le monde est très différent. La structure sociale des classes, des gens, des intérêts est très différente. Ce qui est nouveau maintenant, c'est ceux qui n'étaient pas en crise. Les classes moyennes qui ont commencé à être en crise. Ça, c'est nouveau. Évidemment que les pauvres sont très atteints par cette crise aussi, parce que le 25 avril a créé des choses importantes pour leur vie quotidienne. Au niveau du travail, au niveau de l'éducation des enfants, au niveau de la santé de la famille. Et ça aussi est en train de se dégrader, d'être récupéré par le privé et d'être dégradé. Et je ne vois pas une idée politique qui fasse son chemin, qui montre une certaine logique, une certaine vision réaliste de la situation, qui puisse enthousiasmer qui que ce soit. Je vois du folklore, du carnaval politique. Et ceci, pour moi, est dû à une chose très simple. Le niveau culturel de ce pays a été rabaissé drastiquement. Les nouvelles élites post-fascistes sont très incultes. Ce pays n'a jamais eu, depuis le XVIe siècle, une bourgeoisie stable, riche, puissante, comme on trouve en Allemagne, comme on trouve en France, en Angleterre, même en Italie. Une bourgeoisie qui, ayant le pouvoir depuis des générations et des générations, puisse se donner le luxe d'aimer la culture, d'aimer les arts, de donner à manger à Beethoven, donner à manger à Mozart, donner à manger à Visconti. Ce sont des élites minables qui ont seulement comme préoccupation l'argent rapide et facile. Il n'y a pas de projet dans ces villes-là. Il n'y a pas un projet de classe, et c'est ça qui est grave. Il y a des projets individuels, il y a des ambitions, mais il n'y a pas un projet de classe. J'ai la sensation, même quand il y a eu ces grosses manifestations alternatives, c'était un cirque. Et donc la réponse a été la constitution d'une marée de gens qui n'ont pas de rapport avec la vraie politique, celle où il s'agit de se mettre ensemble pour résoudre des problèmes. Les gens dépendent de ce qui a été conquis en 1974, c'est pas ce qui a été conquis qui dépend d'eux. C'est ça. C'est toujours la même question d'engagement, si on va bien. Ça va prendre très très longtemps, jusqu'à ce que cette chose très belle et très inexistante qu'est l'initiative populaire puisse mener à quelque part. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps, tous les ans maintenant, au Brésil. Il y a du mouvement social au Brésil, tu vois. Il y a du mouvement social, il y a de la poigne, il y a un projet.
Então, e o que escolhes, cidadão? Escolhes o quê? Que tal é esse menu onde quem decide és tu? Será que ainda não tocas? Tu eleges, eles governam. Governam e são governados pelos privilegiados do capital abstrato.
C'était José Mario Branco, Rêve d'Avril. Remerciements: Emmanuel Boulois, Françoise Cabanne, Margarida Silva, Nelson Guerrero et Pedro Fidalgo. Prise de son, Georges Tau. Réalisation, Anne Fleury. José Mario Branco, Rêve d'Avril, un documentaire d'Elsa Cornevin.
Et depois, non est só não ser cumprido, é ser cumprido ao contrário. Virar o prego ao contrário para espatar na tua vida, para estrugir a tua vida na panela inoxidável do mercado. Estás lixado. Tu pensas que é um contrato, mas eles não têm palavra, eles não estão lá para isso. A palavra que eles têm foi celebrada mais...
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez voyager dans le temps, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour la manifestation ou nous réécouter avant le concert, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, à la page France Culture Documentaire, et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tenk, notre partenaire qui propose par abonnement du docu d'auteur à foison. Demain, dernier épisode, Lusitania 14, les Portugais de Plaisance.